Cause à effet, le magazine de l'environnement.
L'A350, le nouveau cheval de bataille d'Air France. C'est l'avion qui doit faire des économies à la compagnie. Le nouveau venu a des atouts, il pèse 40 tonnes de moins que ses deux principaux concurrents, les Boeing 777 et 787. Il émet 25% de CO2 de moins et surtout, il consomme moins de carburant.
L'A350, c'est un avion qui intègre beaucoup de nouvelles technologies qui permettent d'avoir en particulier un niveau de bruit très réduit, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, avec des moteurs qui ont une consommation près de 25% inférieure aux avions de génération précédente.
65 mètres de long, 65 mètres d'envergure, 16 000 km sans escale.
Pour moi, c'est un très bel outil de travail, aussi bien pour la compagnie, parce que c'est un outil efficace, et c'est un très bel outil de travail pour le pilote. C'est vraiment, de mon point de vue, c'est le plus bel avion de ligne pour le pilote.
324 passagers pourront embarquer pour des étapes longues de 10 000 km, comme Séoul ou Bangkok. L'enjeu pour la compagnie, les économies de kérosène et une meilleure performance environnementale.
C'était le 1er octobre 2019. L'A350 était présenté comme une petite révolution. Depuis, un virus est passé par là et l'expression « un dernier avion pour la route » a gagné du terrain. Depuis déjà quelques temps, la mobilité ne cesse de faire parler d'elle et d'engendrer de vives discussions, des réactions, sujet de crispation dans une société à qui l'on demande de produire moins de CO2 et de modifier son impact sur le réchauffement climatique et l'environnement. Qu'en est-il aujourd'hui dans le domaine de l'aviation? La recherche a-t-elle suffisamment avancé pour offrir des solutions optimales et exploitables? Entre nécessité professionnelle et envie d'évasion, comment notre usage de la mobilité aérienne est en train d'évoluer? Le secteur de l'aéronautique est-il en passe de se réinventer? Dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le présent, qui rassemble, je le rappelle, chaque mois, quatre médias, France Culture, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Combini News, eh bien, nous interrogeons et analysons aujourd'hui cette mutation aéronautique avec Sébastien Porte, journaliste indépendant, collaborateur régulier des magazines Télérama et Ça m'intéresse. Il est aussi auteur du livre Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit notre environnement, livre paru chez Tana Éditions. Et avec nous Raymond Vossner, géographe, professeur honoraire de Sorbonne Université, ancien directeur du master Transport, Logistique, Territoire et Environnement. Et il est auteur du livre La crise du transport aérien vers une autre planète, ouvrage édité chez Atland. Bienvenue à tous dans notre émission en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, dont vous découvrirez tout à l'heure l'histoire du jour grâce au journaliste Stéphane Mandard. Et merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Anaï Morales en copilote, avec la petite troupe fidèle, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, la documentation d'actualité de Radio France. L'émission est réalisée par Peyré Legras, que je salue avec nous derrière la vitre et à ses côtés, à la technique aujourd'hui, Élise-le.
Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au XXIe siècle.
15 milliards d'euros au total pour soutenir un secteur touché de plein fouet par la chute du trafic aérien et qui emploie plus de 200 000 personnes en France. Airbus, par exemple, n'a enregistré aucune commande le mois dernier. Alors pour ce syndicaliste, il était urgent d'agir.
Il fallait que l'État donne le signal pour que derrière, dans les plans sociaux qui vont intervenir ou qui interviennent déjà, on puisse avoir des arguments à faire valoir pour protéger l'emploi.
Première mesure, un fonds d'investissement de 500 millions d'euros créé par l'État et les industriels pour soutenir les entreprises en difficulté. Une aide vitale pour ce sous-traitant de pièces métalliques près de Toulouse, mais qui souhaite aussi des dispositifs pour maintenir l'emploi.
Il faut pouvoir aussi travailler avec les écoles et pouvoir embaucher des alternants pour pouvoir prendre des stagiaires, pour pouvoir les former à nos métiers de demain, et puis être capable aussi de conserver nos compétences. Nous devons être capables de garder les gens avec des mesures de chômage partiel qui peuvent aller plus loin.
Ce plan doit aussi financer la transition écologique du secteur. 1,5 milliard d'euros, avec en ligne de mire l'avion zéro émission carbone d'ici 2035.
Et oui, la crise sanitaire a vu les avions cloués au sol. Les compagnies aériennes ont été visiblement en première ligne de la propagation du virus. Et le 10 juin 2020, Bruno Le Maire annonçait une aide au secteur aéronautique. Une aide décidée à hauteur de 15 milliards d'euros en tout pour Airbus et pour les autres acteurs de ce fleuron de l'industrie française. Bonjour Raymond Vesner.
Bonjour.
Alors selon vous, est-ce que ce secteur fait partie, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron dans son discours du 12 mars dernier, de ce modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour?
Oui, indéniablement. Hein. On est un peu sur une ligne de crête technologique, politique, financière. Et la France est très engagée dans le secteur aérien, aussi bien par son industrie que par sa principale compagnie Air France. Hein. Et c'est un enjeu, effectivement, d'ampleur nationale. Hein. Il faut ajouter aussi que les choses s'encastrent avec le complexe militaro-industriel, puisque il y a aussi une partie de l'activité qui est dédiée à l'industrie et aux activités de type militaire. Donc, on aurait du mal à imaginer qu'on supprime soit le civil, soit le militaire. On a besoin des deux pour que l'industrie puisse fonctionner correctement.
D'où le soutien engagé, proposé. Il faut rappeler que pour le secteur aérien, on parle en moyenne de 300 000 salariés employés. Alors, quand on dit cela, Raymond Vesner, ça représente quoi? C'est le secteur aérien, ce n'est pas que les avions, les aéroports, c'est aussi toute une infrastructure autour et une économie encore plus large.
Ah oui, tout à fait. Oui, il y a une myriade d'entreprises, ne serait-ce que pour l'entretien des avions, pour le fonctionnement des aéroports, pour le ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire apporter de la nourriture à bord des avions. Enfin, les services de sécurité. Il y a effectivement une sorte d'écosystème aérien qui lui-même déborde très largement sur le reste de l'économie française. Hein. Si vous supprimez les avions, vous supprimez très largement le tourisme international, par exemple. Donc ça veut dire que l'Île-de-France serait sinistrée du point de vue touristique, la Côte d'Azur serait sinistrée du point de vue touristique, les stations haut de gamme des Alpes prendraient le même chemin. Donc c'est un peu comme des racines, ça plonge très profondément dans le terreau de l'économie et de la société française.
Alors Sébastien Porte, je me tourne vers vous, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle effectivement de secteur aéronautique, on se rend compte que c'est un tout. Hein. Il y a aussi plusieurs échelles, on va en parler, l'échelle nationale, européenne et puis l'échelle mondiale. Restons peut-être sur l'ampleur hein, que le trafic aérien représente. Vous le montrez très bien dans votre livre, il est en perpétuelle expansion depuis les années 70, avec 4 milliards de passagers transportés en 2017, mais avec une augmentation de 8% par an. Chaque jour, on parle de 10 millions de passagers à bord de l'un des 100 000 vols quotidiens sur l'un des 26 000 avions de ligne affrétés par l'une des 1400 compagnies aériennes. Ce sont les chiffres que vous nous donnez en sachant que, bien sûr, les prospections aussi, tout ce qui était de la prospective était celle d'avant la crise et qu'aujourd'hui, on est en train de se poser des questions hein, sur quand même ce secteur aérien.
Oui, en effet, dans le livre Le Dernier Avion, il y a une dimension prospective assez importante. C'est je dirais l'aspect qui a motivé chez moi la décision de travailler sur ce sujet-là. On a effectivement ce chiffre de 4 milliards de passagers par an, tout au moins pour l'année dernière. En 1990, on était seulement à 1 milliard. Et les projections des grandes organisations internationales qui s'intéressent au sujet, comme l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou l'IATA, ainsi qu'Airbus également dans ses travaux de prospective, table sur du 16 milliards de passagers en 2050. Donc on est sur une croissance absolument vertigineuse. Et lorsqu'on rapporte à cela les efforts évidemment très très louables des constructeurs et des compagnies pour réduire les gaz à effet de serre, on se rend compte que le compte n'y est pas. On va vers un doublement, voire une multiplication par 4 des rejets de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, d'après l'OACI. Donc, c'est vrai que l'état d'esprit qui était le mien lorsque je me suis lancé dans la rédaction dans cette enquête a été fortement perturbé au moment où j'ai rendu ma copie, c'est-à-dire quelques jours avant que ne surviennent les mesures de confinement, et donc la mise à l'arrêt quasi totale du trafic aérien. Par rapport au trafic habituel, en avril, on était sur seulement 6% des vols assurés par des compagnies européennes, 2% pour le low cost. Les aéroports parisiens ne fonctionnaient guère qu'à 3 à 4% de leur activité habituelle. Donc on était dans un événement sans précédent. C'est une situation inédite depuis le début de l'aviation commerciale. Donc, plongé dans une telle stupeur, je dirais, le sentiment, c'est de se dire « rien ne sera plus comme avant ». Je pense qu'il faut quand même nuancer ces conclusions parfois un peu catastrophistes lorsqu'on se penche sur une période donnée, qui est la période que nous venons de traverser, qui évidemment a été qui a eu un impact cataclysmique sur le secteur. L'industrie s'en remettra. Alors au mois d'avril, on disait qu'il faudrait 3 à 4 ans pour que le secteur aérien retrouve son flux habituel.
Alors, on parle plutôt d'une dizaine d'années de convalescence, hein, aujourd'hui.
Oui, mais alors Alexandre de Juniac nous disait qu'en 2023, on serait revenu à la normale. Il y a une dizaine de jours, je l'ai entendu dire qu'on reviendrait en 2022 à la normale.
Oui.
Il est évident que c'est difficile de se projeter dans le futur. Il ne saurait y avoir une rupture univoque complètement. Hein, aucune mutation ne peut être prévisible dans sa généralité. Et puis surtout à l'intérieur de la mutation, il y a souvent des éléments qui s'opposent, hein, avec des alternatives qui sont parfois incompatibles entre elles. Et je pense qu'il en va de même pour le trafic aérien. Il va y avoir, c'est évident, un ralentissement, une restructuration du secteur dont on peut peut-être reparler tout à l'heure. Mais voilà, d'un côté, il faut s'attendre à ce que les prévisions extrêmement triomphalistes que j'avais pu émettre dans le livre soient fortement atténuées, du fait ne serait-ce que de la récession, hein, notamment dans les pays en développement, qui vont faire que la solvabilité des classes moyennes sur lesquelles les constructeurs comptaient beaucoup pour remplir leurs avions dans les décennies à venir, cette solvabilité du fait de la récession, du fait de la crise sanitaire, soit réduite. Donc il y aura moins d'argent pour s'acheter des billets d'avion. Peut-être qu'on aura pris de nouvelles habitudes aussi en travaillant en télétravail ces derniers mois. On aura peut-être renoncé à aller faire des colloques ou des réunions à l'autre bout du monde pour 24 heures ou 48 heures.
C'est un monde qui est en train de se réinventer, hein, Sébastien Porte, comme vous le dites très bien. Et c'est vrai que l'avion, qui a été vécu comme une avancée formidable, hein, le monde du possible, bond en avant, symbole de la liberté dans les années 60, on venait même se promener à Orly. Aujourd'hui, avec la crise de Covid-19, le réchauffement climatique, les enjeux environnementaux, eh bien, l'usage de l'avion est remis en question. Avant d'aller plus loin, justement, sur cette remise en question, les raisons de cette remise en question, et puis sur une projection aussi sur l'avion de demain, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 18 avril 2019.
En Suède, le phénomène s'appelle Fluxcam, la honte de prendre l'avion. Elle gagne les Suédois. Pour eux, voler est devenu trop polluant. À l'aéroport de Stockholm, ceux qui s'apprêtent à monter à bord le font un peu gênés. Vous avez honte parfois de prendre l'avion ?
Un peu, oui. Je dois bien l'avouer.
Oui, j'ai honte. J'y pense à deux fois maintenant.
Pour partir en vacances, Elin Bergman fait désormais dans le terre-à-terre. Fini l'avion, désormais cette salariée d'une association environnementale prend systématiquement le train.
Quand j'ai annoncé ça, les gens m'ont regardé bizarrement. Mais tu dois prendre l'avion. Comment feras-tu pour partir en vacances ? Je leur ai répondu, je peux voyager énormément. Sans être obligé de détruire la planète, pour autant.
En 2013, par exemple, depuis Stockholm, elle se rend à Split, en Croatie. 42 heures de voyage, contre 2h45 en avion. Ou l'année suivante, 33 heures pour aller à Barcelone, au lieu de 3h30 par les airs. Son mari ne s'en est pas encore tout à fait remis.
C'est un peu dur, ça prend quand même plus de temps.
C'est parce qu'il m'aime. Et il faut aussi savoir que ça coûte 2 à 3 fois plus cher de prendre le train. Donc vous êtes vraiment puni quand vous essayez de faire quelque chose de bien.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Raymond Vosner, cette honte de prendre l'avion, ce phénomène-là semble gagner aussi d'autres pays, je crois. Que reproche-t-on concrètement au secteur aéronautique ?
Clairement, il y a un effet Greta Thunberg qu'on vient d'évoquer, qui est très majeur, très, très structurant dans l'évolution de la pensée et du comportement de beaucoup de gens. Après, il y a aussi des éléments très terre-à-terre qui n'ont rien à voir avec l'écologie, hein. C'est-à-dire que les aéroports saturent de plus en plus, les les retards s'accumulent, la qualité des services se dégrade. Passer les checkpoints, c'est quand même un petit peu un somme qu'on aimerait bien s'économiser. Et donc, finalement, il devient un peu décourageant aussi de partir en avion parce que tout simplement, donc, le système n'est plus aussi efficace et performant en termes de qualité. Et ça, c'est lié à cette massification prodigieusement rapide et les infrastructures au sol, en particulier, n'arrivent plus à suivre le mouvement dans beaucoup d'endroits ou de pays. C'est très trivial par rapport à la noblesse de la pensée « je veux défendre l'environnement hein, », mais si un service ne fonctionne pas très bien, on peut être amené à être découragé, tout simplement. Hein. Voilà, donc il y a quand même différentes origines hein, du fait que on arrive vers des sourcils qui se lèvent hein, en se disant « est-ce que je prends l'avion ou pas ?» Et ensuite, bien sûr, comme le disait très justement votre reportage, passer 30 ou 40 heures dans un train, c'est quand même un peu rude. Hein, surtout que la durée des vacances, c'est raccourci par des gens. Et ce qui prime maintenant, c'est pas de partir un mois sur une plage au mois d'août, mais c'est de faire des courts séjours. Hein. Donc à ce moment-là, bien sûr, on n'a pas envie de passer le séjour dans le moyen de transport. Hein. Donc ça veut dire aussi que ce qu'il faudrait faire, c'est à ce moment-là renoncer à partir sur d'autres continents pour ses vacances. Et d'autre part, puisqu'on est en Europe, revoir le fonctionnement du système ferroviaire européen. Et donc là, il y a une percée qui est assez intéressante, mais c'est pratiquement du prototypage. Ce sont les chemins de fer autrichiens qui, loin de renoncer aux trains de nuit, sont en train de les développer. Hein, ils y vont très, très prudemment parce que ils veillent à leur équilibre économique. Et donc, chaque année, ils achètent un peu plus de matériel. Ils ouvrent quelques lignes en plus. Et donc, l'idée, c'est de traverser une partie de l'Europe la nuit. Donc, dans cette logique-là, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, hein, ou même pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des TGV de nuit qui traverseraient l'Europe, principalement dans le sens nord-sud hein.
Ah oui, et le gouvernement français, Raymond Vosner, prône aussi de son côté la fin des dessertes aériennes nationales quand il existe un train à moins de 2h30. Hein, donc on y pense aux lignes Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Nantes par exemple. Là, c'est une question d'environnement. On ne parle pas forcément de train de nuit ou de jour, mais par rapport à ces questions de nuit, on peut aussi imaginer que le bruit, les effets aussi hein, des bruits des aéroports et des avions de jour comme de nuit ont des conséquences sur la santé aussi des citoyens. Un trouble du sommeil, hypertension, problèmes cardiovasculaires, dépression, je crois.
Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est de la science dure, hein. Je veux dire, c'est assez difficile à mesurer et à certifier, quoi. Donc, on peut facilement dire, mais non, cette étude, elle a un biais, ceci, cela, quoi. Et d'autre part, pendant très longtemps, des études, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et en plus, parfois, les aéroports étaient partie prenante dans certaines études et ont cherché à minimiser, justement, les impacts. Hein. Si vous regardez les choses de près, par exemple, la mesure du bruit, c'est un cauchemar au niveau de la compréhension. Il faut être un spécialiste pour comprendre comment on mesure le bruit émis par un avion, parce qu'il est mesuré en différents points, à différentes altitudes, à différentes distances. Mmh. Bon, donc, des certitudes scientifiques, c'est délicat à manier. Cela dit, clairement, cette affaire-là fait des dégâts. Le principal problème, en fait, ce sont les vols de nuit. Ou bien sûr, beaucoup de gens ne peuvent tout simplement plus dormir, donc quand vous êtes privé de sommeil, hein, c'est pas la peine de faire une grande étude scientifique pour comprendre que vous irez mal. Donc là, il y a de grosses crispations, et selon les aéroports, les vols de nuit sont plus ou moins autorisés en latitude horaire, donc les associations de défense se battent pour que cette amplitude horaire soit aussi large que possible, hein. Et les aéroports essaient bien sûr de faire le contraire.
Mais oui. Sébastien Porte, on se pose cette question bien sûr de ce que l'on peut reprocher à l'avion. Alors dans un contexte de dénonciation aussi des effets néfastes du secteur sur le climat et l'environnement, je crois que la flotte aérienne mondiale émet de 2 à 4% des gaz à effet de serre. Il y a aussi ces questions de nuisance sur la santé des citoyens. Votre regard par rapport à ça?
Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est amusant de voir qu'on est dans un phénomène de balancier. On parlait des trains de nuit, on pense à les rétablir aujourd'hui, sur le modèle par exemple de ce qu'ont fait les Autrichiens, qui marche très très bien. Ils ont mis en place un réseau de trains de nuit à travers une bonne partie de l'Europe qui fonctionne très bien et qui est rentable. Alors que la France, il y a, enfin, ces 20 dernières années, s'est employée avec obstination à supprimer les trains de nuit, qui étaient nombreux. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 à peu près. Et donc voilà, il y a ce mouvement de balancier qui m'amuse un peu. Ce qui était vrai hier devient faux aujourd'hui, inversement. Sur les aéroports, et même voilà, le monde de l'aéronautique en général, là aussi, il y a un imaginaire qui est en train de se transformer. Il y a une nouvelle culture de l'avion. C'est plus cet objet de luxe, de plaisir, qui nous faisait rêver il y a pas si longtemps. Enfin, moi, j'appartiens à une génération, on pourrait qualifier de génération Ryanair. Je fais partie de ces gens qui, à la fin des années 90, début des années 2000, alors étudiants, étaient vraiment très heureux de pouvoir voyager pour 100 francs ou pour 200 francs à l'autre bout de l'Europe. La jeune génération aujourd'hui se pose des questions. Elle regarde la question du trafic aérien dans sa globalité, avec ses dimensions écologiques. Et puis aussi, comme le soulignait très justement Renan Vosner, l'aéroport est devenu une espèce de méga machine qui a l'habilité à traiter des passagers à flux tendu, avec des contrôles. On est scanné en permanence. Maintenant, on nous prend notre température, on passe des portiques. C'est le lieu du contrôle par excellence. Et en même temps, c'est le lieu de la liberté. Je crois que c'est un petit peu ça, finalement, l'essence de la modernité. C'est cette ambivalence entre le contrôle et la liberté. On accepte de se faire fouiller, on accepte de se faire prendre notre température, on accepte même de... Il y a des aéroports où on contrôle si les femmes sont enceintes, par exemple. Donc, il y a ce prix à payer. On est prêt à échanger une part de notre liberté au moment où on décolle pour avoir un gain de liberté accrue à l'arrivée. C'est ça l'avion, c'est en ça aussi qu'il est au centre de notre modernité.
L'avion, quels que soient les trajets, il faut essayer de privilégier, quoi qu'il arrive, le train, mais pas forcément la voiture. C'est que entre ces trois moyens de mobilité, il faut toujours considérer un petit peu quel est le trajet en question, c'est ça ?
Oui, alors c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'usagers aujourd'hui, lorsqu'ils décident de partir en vacances, ils font des petits calculs. On a d'ailleurs une obligation légale, lorsqu'on achète un billet de train, on sait combien on va rejeter de CO2 dans l'atmosphère, donc les voyageurs peuvent se livrer à ces calculs-là. Sur un trajet qui pourrait être fait aussi bien par la voiture que par le train ou par l'avion d'une ville française comme Toulouse vers Paris, on sait qu'il vaut mieux y aller en voiture qu'en avion si on fait du covoiturage, à condition qu'on soit au moins deux dans la voiture. Par contre, il est évident qu'il vaut mieux y aller en train. On aura une empreinte carbone qui sera 30 à 40 fois moindre que si on y va en avion. Lorsqu'on peut arbitrer, effectivement, c'est possible. Moi, à titre personnel, je pense même qu'une heure, deux heures, voire trois heures de trajet en plus dans un train, ça vaut bien tout le stress et toutes les difficultés que l'on peut éprouver lorsqu'on voyage sur des vols moyen courrier, avec tous les changements, les contrôles dans les aéroports, le temps pour aller à l'aéroport. Je pense que tout ça, c'est à prendre en compte. Et au final, on peut peut-être retrouver un plaisir de voyager en train.
La Convention citoyenne a demandé à limiter, en tout cas, les effets néfastes du transport aérien, préconise d'interdire de nouveaux aéroports et l'extension des structures actuelles. Il y en a une quinzaine d'extensions prévues en France, en tout cas qui étaient prévues avant la crise. On pense aussi au T4, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 9 milliards d'euros, un projet dénoncé comme climaticide. Quel est votre sentiment, Sébastien Porte ? Est-ce que tout cela, il vous semble qu'il peut y avoir un coup d'arrêt ?
Oui, je pense qu'il faut effectivement limiter les infrastructures, parce qu'en limitant les infrastructures, on limite les flux aussi. On ne peut pas éternellement considérer que c'est la demande qui fait l'offre. Et ce moratoire qui est demandé sur l'extension et la construction des aéroports me semble tout à fait nécessaire. Cela peut conduire effectivement les gens en France à réfléchir à d'autres manières de se déplacer. Et la Convention citoyenne sur le climat aussi a repris cette idée qui avait été mise sur la table à l'Assemblée nationale en juin dernier, il y a un an, par certains députés, François Ruffin, Delphine Bateau notamment, avaient demandé à ce qu'on supprime les lignes aériennes intérieures lorsque le train permettait de faire le même trajet. Alors, en moins de 5 heures dans la proposition de Bateau, avec le même trajet en 2h30 de plus au maximum dans la proposition de Ruffin. Le gouvernement français, pendant la crise du Covid, comme une espèce de contrepartie exigée des industriels et des compagnies en échange des milliards d'euros qui étaient accordés, a demandé à ce qu'on supprime, comme vous l'avez souligné, les lignes qui peuvent être faites en train en 2h30. Et la Convention citoyenne sur le climat, qui a rendu ses conclusions il y a quelques jours, elle se situe dans une espèce de moyen terme. Elle propose que ce soit 4 heures, le temps de train, qui justifierait une substitution, ce qui me semble être tout à fait raisonnable.
Raymond Rosner, je me tourne vers vous sur, bien sûr, ces questions, parce qu'on sent que ça va forcément susciter aussi de nombreux débats. En France, on compte une centaine d'aéroports régionaux, dont seulement 17 seraient les plus rentables. On parle aussi des vols intérieurs qui seraient plus polluants que les vols internationaux. Est-ce que vous sentez que aujourd'hui, on est en passe de voir des aéroports potentiellement fermés, les lignes ferroviaires réactivées, et ce monde de demain en France pourrait nous amener à une autre mobilité?
Oui, il faut voir à quelles conditions les choses pourraient se faire. Alors, qui défend les aéroports régionaux qui perdent de l'argent? Qui en veut, en fin de compte? Ce sont principalement les élus locaux qui se disent que si je n'ai pas d'aéroport, je suis un territoire enclavé, je décroche, et ça va peser très lourd dans mon activité économique à venir.
Et qui les utilise concrètement, ces aéroports? Parce qu'on parle de démocratisation du trafic aérien, mais est-ce que l'usage de l'avion est vraiment démocratisé sur toutes ces lignes-là?
Alors ça dépend. Si vous avez une compagnie low cost qui dessert votre aéroport, hein, genre Ryanair à Bergerac, là on peut parler de démocratisation, puisque beaucoup de Britanniques ont acheté dans les temps heureux du Royaume-Uni des résidences secondaires ou qui sont devenues principales en Dordogne. Donc ils font souvent la navette très facilement entre l'Angleterre et la France à des tarifs défiant toute concurrence. Donc c'est une certaine forme de démocratisation. Soit dit en passant, les compagnies low cost n'hésitent pas à demander des subventions aux collectivités locales pour qu'elles viennent se poser chez elles et pas ailleurs. Hein. Donc ce sont des chantres du libéralisme économique, mais qui adorent aussi bien la défiscalisation que les subventions. Hein. Bon. Et après, vous avez des aéroports qui n'ont pas de compagnie low cost, hein, qui sont desservis très souvent par la filiale d'Air France qui s'appelle HOP, hein, et qui a d'énormes difficultés, qui je ne sais pas vraiment s'ils ont un jour gagné franchement de l'argent. Ils sont sur le fil en permanence. Et donc là, vous allez payer cher, en fin de compte. Alors bien sûr, si vous regardez les publicités, il y a des billets, quoi. Vous dites, voilà, vous pouvez faire Brest-Paris pour 50 euros, un aller simple. Ah bah oui, très bien, mais il faut que j'emmène un bagage de cabine absolument riquiqui. Et si je veux emmener un bagage en soute, brusquement, j'aime retrouver à 500 euros aller-retour. Bon, donc je serai plus cher que le train, et ainsi de suite. Mmh. Donc là, c'est, si vous n'avez pas de low cost, hein, ça n'est pas du tout démocratique, quoi. Dans le cas français, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a relativement peu de transversales intérieures low cost, quoi. Vous avez par exemple un Bordeaux-Mulhouse-Bâle, voilà, ça c'est une transversale. Mais les low cost travaillent surtout avec l'Europe du Nord, donc les îles britanniques, les Scandinaves, voire l'Allemagne, pour desservir la France, quoi. Donc c'est des vols intérieurs français, finalement, qui soient bon marché, il y a pas beaucoup d'opportunités en fin de compte. Hein.
Alors comment concilier la croissance économique, le droit au voyage et la défense de l'environnement sur ce secteur aérien? Nous continuons à en parler dans un instant, juste après le choix musical. Je précise que vos choix musicaux, messieurs, seront à découvrir sur le site de l'émission pour nos auditeurs. Et c'est une chanson de Ina Modja que je vous propose d'écouter. C'est une artiste malienne engagée dans la lutte contre la désertification du Sahel et pour la Grande Muraille Verte. Ce mur de 8000 km d'arbres qui traverse le continent africain, du Sénégal à l'Éthiopie. Et Ina Modja est à l'affiche en ce moment des salles de cinéma en France dans un très beau film documentaire intitulé The Great Green Wall. C'est un voyage musico-écologique dans lequel on peut la suivre à la rencontre de ceux qui sont engagés dans ce défi en plantant des millions d'arbres depuis des années. Des populations qui doivent aussi faire face à des guerres. Un projet devenu un enjeu mondial et l'argent de l'album est reversé au projet Great Green Wall. C'est un film de Jared Scott. Africaillet de Ina Modja.
Ubeta tunga ndela gatunga mandiula dove parlo, dove sa sera la. Ube tatunga della gatunga mandiula. Dove parlo, dove sa sera la. Africa ye, yeah. Africa ye, yeah. Africa ye. Yeah.
Birpairaga faraga baraga zarga nikuirano. Birpairaga faraga baraga zarga irpairano. Banikandaga faraga baraga zarga nikuirano.
Gana yelena ni ne koko Afrika kadon sera. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah.
C'était Ina Modja, Africa, yeah, et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au secteur de l'aviation et à sa réinvention possible dans cette après-crise sanitaire et avec les enjeux environnementaux en ligne de mire, un sujet que nous interrogeons dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent avec nos partenaires médias, Le Parisien aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Combini News. Et puis nous sommes avec le journaliste Sébastien Porte, auteur du livre Le Dernier Avion, paru chez Tana Édition, également avec Raymond Wessner, géographe et professeur honoraire de Sorbonne Université et auteur du livre La crise du transport aérien vers une autre planète, un ouvrage édité chez Atland. Mais tout de suite, il est l'heure de découvrir l'histoire de la semaine choisie par notre partenaire Le Monde. Bonjour Stéphane Mandard.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes journaliste de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde et vous couvrez notamment le secteur pollution qui voit à nouveau notre air souffrir.
Pour rien vous cacher Aurélie, je ne sais pas vous, mais moi au gré de mes enquêtes et de mes reportages ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de nostalgiques du confinement. Des riverains et des adultes qui se battent contre les fonds de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dont vous avez parlé, regrettent ce temps béni où ils n'étaient pas tirés de leur sommeil par le brombissement des avions. Une habitante de Villepinte, 50 ans, en Indre-et-Loire, qui, bien qu'elle vive à la campagne depuis près de 20 ans, a entendu pour la première fois des croassements de grenouilles et des meuglements de vaches, autant de sons habituellement étouffés par le bruit de l'autoroute qui passe au bout de son jardin, l'autoroute A10, que juilletistes et aoûtiens prennent d'assaut tous les étés pour rejoindre la côte atlantique, mais pas seulement. Les jappements d'un chien, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, combien de citadins m'ont dit avoir redécouvert, à la faveur du confinement, des mélodies habituellement étouffées par le vacarme des grandes villes, le silence.
Eh oui, moins d'avions, moins de voitures, moins de camions, moins de motos et de scooters, c'est aussi moins de pollution.
Eh oui, en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, un peu partout en Europe, les mêmes tendances ont été observés pendant le confinement avec le ralentissement, voire la paralysée de l'activité économique, les niveaux de pollution ont chuté brutalement. Ces baisses ont été particulièrement spectaculaires pour le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est un gaz très toxique émis principalement par le trafic routier. Au niveau de l'Île-de-France, tenez-vous bien, Air Paris a observé une baisse historique des concentrations en dioxyde d'azote de l'ordre de 60% par rapport au niveau habituel. Mieux, un institut de recherche indépendant, le Centre de recherche sur l'énergie et la qualité de l'air, qui est basé en Finlande, a estimé que pour le seul mois d'avril, donc en plein confinement, cette diminution de la pollution imputable au confinement aurait évité 11 000 décès à l'échelle de l'Europe, dont 1 230 décès évités en France.
Et oui, parce qu'il faut quand même rappeler que cette pollution de l'air tue.
Et oui, selon les modes de calcul, le dioxyde d'azote, si les particules fines, celles qui sont les plus dangereuses pour la santé car elles pénètrent profondément l'organisme, seraient responsables chaque année en France entre 48 000 67 000 décès prématurés chaque année. Donc. Juste avant le confinement, une dizaine d'élus locaux, d'ailleurs, représentants des métropoles, avaient interpellé le président de la République pour que ces morts, ce sont leurs mots, hein, ne soient plus passés sous silence et que la lutte contre la pollution de l'air soit enfin reconnue comme une priorité nationale. La France, rappelons-le, a été récemment condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle expose sa population depuis plus de 10 ans à des niveaux de dioxyde d'azote qui dépassent les normes sanitaires. Il serait inacceptable de sortir de la crise du Covid-19 pour mourir de la pollution de l'air, écrivaient ses élus dans leur alerte au chef de l'État. Patatras, pour son premier bilan post-déconfinement, Air Paris a montré qu'au bout de 3 petites semaines, les niveaux de pollution au dioxyde d'azote étaient quasiment revenus à la normale. À la normale, conviendrait mieux, plus facile à l'écrit qu'en radio. Pire, selon une étude du Centre de recherche sur l'énergie de la qualité de l'air qu'on a déjà cité, dans la capitale française, que ce retour de la pollution a été le plus brutal parmi les grandes métropoles européennes. Les concentrations en dioxyde d'azote y ont plus que doublé, plus 118% depuis le confinement. Le retour de la pollution a été beaucoup moins marqué à Madrid, par exemple, moins 50%, et Londres, 34%. Et le rebond a été quasiment nul à Berlin, plus 4%.
Mais alors Stéphane Mandard, par quoi s'explique cette situation à Paris?
Alors cet envolé parisien s'explique d'abord parce que la chute des niveaux de dioxyde d'azote y avait été aussi les plus forts, moins 60% pendant le confinement. Quant à Londres, ça avait chuté de moins 30% seulement. Il ne suffit pas non plus que la capitale française est devenue la métropole la plus polluée d'Europe. Hein, lorsqu'on compare le niveau de dioxyde d'azote, Bruxelles, Milan ou Munich affichent toujours des niveaux supérieurs. Ce retour du business as usual, j'ai envie de dire, montre en revanche que le déploiement des fameuses coronapistes cyclables, quand elles n'ont pas été remballées au bout d'une semaine comme à Marseille, n'auront pas permis de compenser la ruée tant redoutée à la voiture individuelle aux dépens des transports en commun. Bien encouragé par les constructeurs automobiles, il y a quelques jours, je vais faire une confidence, je rentrais d'un week-end en voiture, c'est mal, je sais, j'écoutais la radio, pas France Culture, c'est mal, mais pas loin non plus. Un long tunnel de 3 spots de 3 constructeurs saluait le retour de la liberté et invitait les auditeurs à choisir leur nouveau modèle aujourd'hui et à payer en 2021. En matière de pollution de l'air, le monde d'après risque fort de ressembler comme 2 particules fines au monde d'avant.
Bon, mais on sait, Stéphane Mandard, que pour votre prochain voyage en voiture, c'est pas bien, vous écouterez France Culture et ce sera très bien. Vous restez quelques minutes avec nous, le temps de me tourner vers nos invités pour une question, une réaction peut-être. Raymond Wössner, sur ces questions de pollution de l'air qui ne sont pas éloignées des questions de pollution du trafic aérien.
Oui, bien sûr, oui. D'autant plus que le trafic aérien, finalement, génère aussi du trafic routier. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe autour de Roissy. Hein. On peut faire de très mauvaises expériences, certains vendredis par exemple, hein, avec des bouchons à non plus finir et un temps de parcours de 2 heures pour aller à Paris. Hein. Bon, c'est vrai qu'à court terme et à moyen terme, on a du mal à comprendre, hein, parce qu'on a tout un discours, l'environnement ceci, la pollution cela, et si vous regardez les ventes de voitures neuves en France, ce sont des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus gourmandes en carburant. Donc de plus en plus polluante, quoi qu'on fasse. Donc là, il y a une industrie à repositionner sur des voitures plus petites, plus légères, et bien sûr sur des voitures hybrides et encore mieux électriques. Hein. Donc on peut-être, soyons optimistes, hein, à long terme, espérer une baisse de pollution de ce côté-là. Mais pour l'instant, votre intervenant parlait des publicités pour des voitures. Hein. Il y a, comme le disait un responsable de laboratoire universitaire, l'industrie automobile française a 400 000 voitures à fourguer, et ce sont toutes des voitures polluantes, quoi. C'est des voitures du monde d'avant. Bon. Oui. Donc, tout ça, c'est très contradictoire et un peu inquiétant en fin de compte. Hein. Voilà. Bon. Oui. Et de même pour l'aérien, quand on parle des fameux 2, 2,5, 3% de pollution totale, quoi. C'est un chiffre que les défenseurs du monde aérien aiment bien parce que finalement, ça n'est pas grand-chose. Hein. Un jour, un représentant de chambre de commerce et d'industrie m'a dit « Oh oui, bon, c'est un petit luxe qu'on se paye, hein, qu'est-ce que c'est, 2 ou 3 %?» Hein, bon. Donc c'est une manière de se dédouaner commodément, hein, alors qu'il faudrait que tout le monde, absolument tout le monde, fasse des efforts dans tous les secteurs, quels qu'ils soient. Et de toute façon, c'est plus que 2,5 ou 3. Hein. Je ne sais pas combien c'est au total, parce que tout dépend de la manière dont on compte. Hein. Il y a des mélanges gazeux qui se produisent dans l'atmosphère et qui ont des effets très peu connus. Hein. On a très peu d'études sur ce qui se passe dans les nuages, en fin de compte. Hein. Je ne parle pas des rejets des avions eux-mêmes, mais des nuages qui ont l'air naturels et qui, en réalité, sont de plus en plus artificialisés avec ce qu'on trouve à l'intérieur, aussi bien du vivant que du pas vivant, quoi, du biotique, oui, de la biotique. Et il se passe des choses bizarres dans le ciel de ce point de vue-là, quoi, bon, avec des effets de serre qui se renforcent, et ainsi de suite.
Mais oui, voilà. Donc, les nuages de moins en moins naturels, hein, c'est ça. Et Sébastien Porte, les oxydes d'azote, les NOx, là, les CFC aussi, ont des effets radiatifs et des conséquences sur la couche d'ozone notamment. Le trafic aérien est générateur aussi de cette pollution atmosphérique.
Tout à fait. Donc le chiffre de 2,5% doit être, à mon avis, réévalué à 5%. C'est à peu près la contribution des avions sur le réchauffement climatique. On dit que, enfin, les chercheurs ont démontré que 5%, c'est ce que représentent les avions dans ce qu'on appelle le forçage radiatif. Donc il faut prendre en compte dans ce forçage radiatif le CO2, mais aussi les oxydes d'azote, enfin tout un cocktail de gaz, ainsi que des cirrus, c'est-à-dire d'origine anthropique, hein, les cirrus induits, c'est-à-dire les petits nuages qui sont rejetés par les avions sur leur passage, contribuent aussi au réchauffement de l'atmosphère. Donc il vaudrait mieux parler de 5%, et si on se projette dans le futur, c'est pas 2 à 3%, c'est plutôt 20 à 25% de contribution au gaz à effet de serre que produiront les avions à l'horizon 2050 à peu près.
D'accord.
Quant au NOx, il tue aussi de manière directe, hein, d'après une étude du MIT, 16 000 décès prématurés seraient imputables à l'aviation. J'ai fait un petit calcul et on se rend compte finalement de cette manière directe-là, l'aviation tue bon an mal an 20 fois plus par cette pollution-là que par ces crashs.
Je signale pour les auditeurs que ces articles sur le sujet sont à lire sur le site du monde.fr et sur celui de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors messieurs, une question importante quand même à aborder aussi dans cette émission consacrée au secteur aérien et à sa potentielle ou possible transformation, mutation, réinvention. Où en est-on justement des recherches technologiques pour créer un avion propre? Une flotte d'avions solaires ou électriques serait-elle envisageable à long terme, Raymond Vosner?
À long terme, à très long terme. Alors, il y a quelques jours, un avion de 10 places entièrement électrique a volé aux États-Unis, et le constructeur pense de certifier d'ici 2 ou 3 ans pour une exploitation commerciale. Et en France, il y a des acteurs qui sont intéressés, par exemple pour relier le continent breton à l'île de Sein, ou donc de petits vols, ce genre de choses. Bon. Donc on sent poindre quelque chose. Mais pour ce qui est des avions du type Boeing 737 ou Airbus A320, ou bien pour tout ce qui est encore plus gros comme la 350 dont vous parliez en début d'émission, alors là, je dois avouer que je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu le gouvernement dire qu'en 2035, on aurait des avions propres, quoi. Ça me paraît technologiquement complètement irréaliste. Il y aura encore des années et des années de recherche. En plus, un avion, ça n'est pas une voiture ou un train. Il faut qu'on soit absolument sûr qu'il n'y ait pas de problème à bord, hein, parce que quand une voiture électrique est en panne, vous ouvrez la portière et vous en descendez. Hein. Un avion, c'est pas pareil. Donc, il faudra un temps extrêmement long. Et pour l'instant, on ne voit pas très bien comment faire sur le fond, puisque le problème numéro un de l'avion électrique, c'est le poids des batteries. Vous consommez, surtout en phase d'ascension ou de descente, énormément, et plus d'ascension que de descente, vous consommez énormément d'énergie et vous allez vider des batteries à toute vitesse, quoi. Donc il faut emmener un poids énorme de batteries, et plus l'avion est lourd, plus il faudra de la puissance, donc plus il faudra des batteries. Enfin, là, c'est un peu la quadrature du cercle, et il faudra des développements vraiment spectaculaires sur cette question-là avant de pouvoir parler sérieusement de quoi que ce soit.
Et en matière de carburant, des carburants moins polluants, la science n'a pas avancé non plus par rapport aux avions?
Bon, donc pas on parle beaucoup de biocarburant. Quoi. Et, alors là aussi, quoi. D'ailleurs, l'IATA est la première à le dire, quoi. Il ne faudrait pas que ces biocarburants viennent de champs qui prennent la place de production destinée à l'alimentation humaine, quoi. Donc il faudrait passer par des déchets, ce genre de choses. Ça se fait déjà pas mal en Suède, en Finlande, où on récupère des déchets de Syrie, hein, pour faire du biocarburant, y compris du biocarburant aviation. Voilà, donc c'est des pistes. Mais bon, ça, l'idée, ce serait de faire un mix 50% énergie fossile, 50% biocarburant. Vous avez des chiffres de la croissance attendue, hein, du moins celle qu'on attendait avant la crise du Covid. Même si on procède ainsi, il est évident que la pollution aérienne va exploser de toutes les manières. Donc on est un peu dans une impasse, hein. On n'a pas de solution qui puisse se profiler comme ça, là. ne peut pas claquer d'un coup de baguette magique hein, en disant « hop, faisons une voiture électrique » comme par exemple, « faisons des avions électriques ». Non, non, ça ne marchera pas, hein, sauf pour les petits avions. Mais vraiment, les tout petits. Hein.
Oui. Sébastien Porte, vous voyez quelle solution s'il devait y en avoir? On vient d'entendre Raymond Vossner qui est sceptique, hein, qui explique qu'il faudra bien même plusieurs décennies peut-être pour arriver à un autre avion, mais on en est loin. C'est quoi les solutions?
Oui, effectivement, l'avion propre, c'est un doux rêve. Hein. Pour revenir aux agrocarburants, même dans les scénarios les plus optimistes, il ne pourrait représenter qu'une part marginale du contenu d'un réservoir. Les biokérosènes doivent être mélangés à du kérosène. L'OACI, dans ses projections, l'OACI a étudié plusieurs scénarios et dans son scénario le plus optimiste, à savoir celui où on aurait remplacé la totalité du kérosène par du biokérosène, ce qui est impossible, ce qui est complètement irréaliste, ce serait la seule condition à laquelle on pourrait stabiliser les rejets de gaz à effet de serre. Mais on n'en est pas là du tout, et si cela devait se faire, ce serait au détriment de l'agriculture destinée à l'alimentation humaine. Moi, j'ai envie de parler aussi de ces petits projets, enfin de ces projets de petits avions qui se multiplient et qui font rêver, parce que ça nous renvoie à un univers de science-fiction. On est un peu dans Blade Runner ou dans Metropolis. On imagine ce monde de demain avec plein de petits avions qui voleraient dans le ciel, alors qui porteraient 1, 2, 3, 4 passagers ou simplement un colis. Donc il y a des projets qui sont menés par des sociétés telles que Volocopter ou Lilium. Uber également se penche là-dessus. Airbus aussi a plusieurs projets dans son sac. Tout ça, ça relève plus du taxi volant que de l'avion. C'est pas ces appareils-là qui vont se substituer aux appareils polluants d'aujourd'hui. Ce sera du flux en plus. Donc je pense pas que là non plus ce soit une solution.
Et on n'a pas parlé aussi de la pollution du secteur aérien, c'est-à-dire celle des cimetières. Les cimetières d'avions, certes, il existe des chantiers de déconstruction, mais j'ai cru comprendre que la question du recyclage n'était pas encore optimale sur les carcasses, les carlingues, avec des grands cimetières d'avions aux États-Unis, en Californie, en Russie. C'est aussi une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi de ces avions quand ils ne sont plus en service?
Oui, alors là, j'ai l'impression quand même qu'on progresse, notamment parce que l'Union européenne a des exigences en la matière. On ne peut pas laisser à l'abandon un avion, le laisser pourrir comme ça au soleil ou aux quatre vents. On est obligé de le déconstruire en respectant un protocole précis et de sorte à réinjecter chaque partie de l'avion vers un circuit lui permettant une filière où il sera recyclé. Sauf que ça se met en place seulement depuis quelques années, que ça marche bien peut-être dans les pays occidentaux, mais les compagnies des pays en développement n'ont pas forcément les structures nécessaires pour assurer ce recyclage, structures industrielles. Et puis voilà, il est parfois plus facile d'envoyer une équipe de casseurs sur un avion pour le démonter de manière un peu sauvage plutôt que de démanteler soigneusement. Donc il y a encore évidemment ces cimetières d'avions où se sont accumulés des appareils depuis des décennies, mais aujourd'hui on doit travailler à leur déconstruction, c'est une obligation légale.
Et au fond, Sébastien Porte, vous expliquez dans votre livre, est-ce que finalement on n'est pas là aussi avec une occasion de revoir notre rapport au voyage, retrouver du temps, là où l'avion nous en avait fait gagner finalement, en gagnant du temps on l'a toujours rempli, vous êtes plutôt pour une sédentarité heureuse?
Effectivement, je voudrais pas que ce livre soit considéré comme un appel à revenir à une sédentarité contrainte et une assignation à résidence. Des populations, on a besoin de voyager, c'est évident qu'on a besoin de voyager, ça fait partie des plus grands bonheurs du monde. Moi-même d'ailleurs, je suis un voyageur, en tout cas je l'ai été, qui a pris l'avion et je ne regrette pas. Néanmoins, il y a des marges de manœuvre qui sont possibles, par exemple en essayant d'organiser ces voyages différemment, en les espaçant davantage, et quand on part, essayer de partir plus longtemps, mettre fin à cette frénésie du week-end à Amsterdam ou à Séville, où on va faire un aller-retour éclair de quelques jours pour aller à un festival ou aller faire du shopping, ou participer à une réunion professionnelle. Donc je pense qu'il faut en finir effectivement avec cette religion de l'hypermobilité, du toujours plus, qui rejoint de toute façon la question de l'hyperconsommation. Et puis aussi avec ce culte du chronomètre, à se demander si voilà, on n'est pas à 10 minutes près, ni même à 1 heure près. Parfois, il est bon de prendre le temps de voyager. Tout ce qui est lointain et exotique n'est pas forcément plus beau et plus valorisant. Donc ça implique aussi une espèce de bouleversement dans nos repères, dans notre imaginaire. Il faut envisager, je crois, un nouvel imaginaire de l'ailleurs. Et cette crise sanitaire dont nous sortons, tout au moins je l'espère, est une super occasion pour repenser ce rapport au voyage aérien. Et on le voit bien lorsqu'on regarde les incitations depuis quelques semaines à voyager en France par la force des choses. Mais en tout cas, il est possible de revoir cet imaginaire de l'exotique.
Raymond Vosner, dans la dernière minute qu'il nous reste pour cette émission, de votre côté, je sais que vous êtes inquiet quand même qu'il y ait cette épée de Damoclès avec les coronavirus qui pourraient bien devenir saisonniers, donc un péril viral latent mais peut-être permanent. Tout cela peut aussi amener à changer plus rapidement l'usage de l'avion.
Oui, de toute façon, l'avion est l'expression de ce que j'appelle la métropolisation, mondialisation. Juste un chiffre au passage, les 50 plus gros aéroports de la planète font les 3/4 des voyages aériens. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration extrêmement forte dans l'archipel des villes-mondes. On en a une dizaine en Europe, par exemple. Cette frénésie du voyage aérien est complètement encastrée dans la mondialisation fondée sur l'accaparement des richesses par les élites, par les gens les plus fortunés. Donc si on veut remettre le monde aérien en cause, c'est pas vraiment de lui qu'il faut parler, mais c'est de ce qui l'englobe en réalité. Et est-ce qu'on veut continuer comme ça? Est-ce qu'on veut continuer à accumuler toutes les richesses dans un nombre limité de villes qui sont de plus en plus polluées, chères à vivre, compliquées, ou bien est-ce qu'on rêve d'autre chose en fin de compte?
On va terminer justement sur votre question en suspens, Raymond Vosner. Et je rappelle le titre de votre livre, La crise du transport aérien vers une autre planète, livre édité chez Atlante. Merci Sébastien Porte. Je rappelle le titre de votre livre, Le dernier avion, paru chez Tana Édition. Et Raymond Vosner, votre livre s'intitule « La crise du transport aérien vers une autre planète ». Il est édité chez Atlante. Et bien sûr, le dossier complet constitué avec nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent, à savoir Le Parisien aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Combini News. Et bien ce dossier est à découvrir sur notre site franceculture.fr à la page de l'émission. Et comme d'habitude, réécoute, téléchargement à votre disposition, ne vous en privez pas. À partir de la semaine prochaine, c'est la rentrée sur France Culture et nous nous retrouverons bien sûr pour continuer à explorer les enjeux environnementaux, plus que jamais au cœur de notre actualité et de notre monde en évolution. D'ici là, très bon samedi à tous et merci de votre fidélité durant toute cette saison estivale.